Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor, je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandante de bord qui ce soir, Corinne Sambrin, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux de Ouagadougou, d'Oulan-Bator, de la Laponie, de l'Apetania dans l'Amazonie et de la Mescalero Apache Reservation au Nouveau-Mexique. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, ceux jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attachez à ajuster votre imagination, redressez votre curiosité et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à élargir les capacités du cerveau avec lequel vous nous écoutez en ce moment même. Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the beginning of the show. Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir avec Corinne Sambrin, que je définis pianiste, compositeur, écrivain, voyageur et chaman. Est-ce que cela vous va dans cet ordre? Comment est-ce qu'on peut vous définir?
Vous avez oublié commandant de bord.
Ah, commandant de bord, oui, évidemment. C'est nouveau, vous savez, toujours, en fait, vous savez piloter.
J'ai pris des cours de pilotage, oui, et puis je ne suis pas arrivée au bout.
Pourquoi? Vous n'étiez pas doué?
Non, c'était trop cher.
Ah, c'était trop cher. Voilà, ce n'est pas à cause de votre manque de capacité. Vous voyagez tout le temps quand même, non?
Oui, je voyage tout le temps et beaucoup, beaucoup en avion et beaucoup à cheval aussi. Et dans des bus.
Dans des bus, oui, nous allons justement en parler. Alors, grande spécialiste de la steppe et de tout ce qui concerne Mongolie, ce sera évidemment l'une de vos escales. Mais nous allons commencer avec une toute première, c'est le Burkina Faso. Alors, je lis d'après la pochette que c'est la bissa du Burkina Faso. En fait, c'est la musique qu'on doit jouer après la récolte des cacahuètes.
Oui.
Voilà, cette musique, vous l'avez choisie, pourquoi ? Pour parler du
des
Burkina Faso.
Oui, du Burkina Faso, bah parce que j'ai été élevée au Burkina Faso.
Vous êtes née en France, mais un mois après, vous étiez dans l'avion déjà pour
voilà, dans un DC-8 ou DC-10, enfin un truc comme ça. Et donc, mes parents travaillaient à Ouagadougou. Mon père supervisait l'installation des lignes téléphoniques en brousse et ma mère était rédactrice du journal et présentatrice du journal à la Radio Nationale, qui était Radio Ouagadougou à l'époque. Voilà. Bah,
quel destin déjà. Quels sont vos premiers souvenirs de ce pays alors ? Parce que vous avez grandi là.
C'est beaucoup de sons et d'odeurs. C'est ces mémoires-là qui ont fonctionné.
Odeurs,
c'est-à-dire les odeurs du marché, les odeurs de karité, les odeurs de l'Afrique. Voilà. Ce qui fait que chaque fois que j'arrive en Afrique noire, je me dis, ça y est, voilà, je reconnecte grâce à cette odeur particulière, très fruitée, très, voilà, et que j'aime beaucoup.
Alors, vous avez parlé brièvement de votre père, mais ça devait pas être facile d'installer les lignes téléphoniques dans la brousse.
Non, mais ça lui a permis de découvrir des tas de populations, et ce qui est sans doute aussi à l'origine de ma passion pour la musique et pour l'ethnomusique aussi.
Quel genre d'enfant étiez-vous ? Alors, vous allez à l'école, il y avait beaucoup d'autres gamins français ou c'était plutôt des Burkinabés ?
J'ai été élevée vraiment dans ma petite enfance là-bas. Je suis rentrée en France, j'avais 6 ans et demi. Donc, j'ai pas vraiment connu l'école là-bas. J'avais une nounou qui s'occupait de moi.
Alors, pour votre mère, donc elle travaille à la radio, c'est ça ?
Mm-hmm. Et Radio Haute Volta.
Voilà, Radio Haute Volta. Ouais, ouais. Et vous, c'était une journaliste ?
Oui, c'est ça. Oui. Ouais.
Alors, vous êtes revenu en France donc à l'âge de 6-7 ans et vous avez fait donc votre scolarité où ?
Dans le sud de la France, à Cannes, qui est sympa aussi.
Très. Alors, donc c'était votre première escale donc le Burkina Faso. Nous allons parler maintenant de l'escale la plus importante pour vous, c'est la Mongolie.
La Mongolie, oui.
Alors, pour parler de la Mongolie, vous avez choisi cette musique.
Thank you.
Deuxième escale, donc, Corinne Sombra, c'est Oulan-Bator, Mongolie. C'est votre passion dans la vie. Vous avez déjà écrit une Parisienne en Mongolie. D'où est venue cette passion ? Ce n'est pas évident de se passionner comme ça pour la Mongolie.
Non, c'est un...
Quand on est né à Ouagadougou et quand on a grandi à Cannes, ce n'est pas tout de suite le choix qui s'impose.
Exactement. Mais ça, c'est une histoire avec Londres, où j'ai rencontré des gens de la BBC en tant que compositeur. Et j'ai fait un reportage pour eux en Amazonie sur les traditions chamaniques d'Amazonie. Et après ça, j'ai été chargée d'aller découvrir les mystères mongols.
Par la BBC.
Par la BBC World.
Oui.
Voilà. Donc, je suis partie avec mon mini-disque et mon micro. C'était pour la radio.
Et, c'était en quelle année ?
C'était en 2001. Voilà, avec une amie mongole, Nara Dash, qui m'a accompagnée pour rencontrer des chamans. Et la rencontre avec la Mongolie s'est faite au cours de ce reportage.
Alors, votre première impression de la Mongolie, vous arrivez à Oulan-Bator,
ouais.
Et ça ressemble à quoi ? Parce que moi, je vous dis tout de suite, je n'ai jamais été en Mongolie. Donc, faites-moi rêver. Décrivez un peu les paysages, les gens, ça ressemble à quoi ? Quelles sont les couleurs ?
Alors, on arrive déjà, l'impression en avion, c'est qu'on arrive sur un désert de steppe. Alors, si c'est la saison chaude, c'est de l'herbe jaune, et sinon c'est de l'herbe verte. Voilà les nuances. Alors je suis arrivée, c'était de l'herbe jaune, et il y en a à perte de vue. Et Oulan-Bator, comme ça, posé entre des collines. La ville qui est une ville qui a été occupée et construite aussi par les communistes, reconstruite. Donc c'est pas très beau. Ça ne fait pas rêver. Il y a beaucoup de bars, d'immeubles qui ressemblent à ceux de Moscou, de la banlieue de Moscou, qui sont toutes construites sur le même modèle, avec une ceinture de yourtes tout autour de la ville, de gens qui ont espéré trouver du travail dans la ville de Oulan-Bator. Et un centre-ville dans lequel il y a le palais gouvernemental, et qui aujourd'hui a beaucoup changé. Aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à la Défense, le centre d'Oulan-Bator. Et on trouve même Vuitton à Oulan-Bator.
Alors, vous vous atterrissez là et vous êtes accueilli comment et qu'est-ce que vous faites dans...
Alors, Nara vient me chercher. Je suis censée aller faire ce reportage. Elle m'emmène tout au nord de la Mongolie. Alors, pour aller au nord de la Mongolie, il faut prendre un bus. À l'époque, on prenait un bus local.
Vous avez répondu dans le questionnaire, le bus 3 jours debout, c'est ça ?
Voilà. Pas assis, parce que les bus, en fait, ce n'est pas des grands bus. Ce sont des anciennes ambulances de l'armée russe qui ont été recyclées, donc qui ont l'avantage d'être des 4x4. Quatre roues motrices. Et donc, c'est tout petit. C'est un minibus, en fait. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une place par personne. C'est qu'il y a tout à entasser, c'est-à-dire tous les gens qui veulent monter dans le bus, plus les bagages. Voilà. Alors, on arrive à se poser quelque part, hein, bien sûr, mais jamais assis et jamais allongé.
Pendant 3 jours.
Voilà. Et ça dure 35 heures, le voyage de Oulan-Bator sur de la piste, en plus. Donc, de temps en temps, il y a des arrêts pipi. Donc, tout le monde descend et on remonte vite dans le bus. Et on s'arrête de temps en temps dans ce qu'ils appellent des gwants. Ce sont des petits endroits où on vous donne à manger. Ce qu'ils appellent des bousses, sont des raviolis ou alors des tsuvans, sont des pâtes. Ça ressemble à des tagliatelles. Hein, mais une histoire, c'est que ce sont les Mongols qui ont inventé les pâtes et pas les Italiens. Donc on m'a remise à ma place là-bas en disant « Oh, ce sont des pâtes ». Ils m'ont dit « Non, ce sont les Mongols qui ont inventé les pâtes parce que c'est... Marco Polo qui aurait ramené la recette.
Non, mais attendez, vous êtes dans ce genre d'ambiance et vous devez me dire, mais la BBC m'envoie pour faire quoi au juste ? Où est-ce que j'ai
atterri ? Alors, le problème, c'est que les chamans en Mongolie sont vraiment au nord de la Mongolie. Voilà.
C'est ce que vous racontez dans votre livre, les esprits
de la
steppe.
Ils sont vraiment, la plupart, hein, aujourd'hui, il y en a partout, mais bon, à l'époque, ils étaient essentiellement dans le nord de la Mongolie. Je devais rejoindre ce lieu. Alors,
mais
il y a 900 km d'Oulan-Bator.
Ouais, je connais les piges de BBC World Service. Je peux dire que 36 heures dans un bus, c'est un dévouement spécial. C'est un sujet qui vous intéressait avant de les rencontrer ou...
Oui, j'avais envie de découvrir ça de toute façon. Oui, oui. Oui.
Bah, Corinne Sombra, ce sont des techniques vocales pour le moins étonnantes. C'est vous-même qui avez enregistré ça. C'est qui? Qu'est-ce qu'il chante et pourquoi?
C'est un chanteur de l'opéra mongol que j'ai enregistré là-bas, dans une petite salle. Je l'ai enregistré et il m'a fait découvrir ce qu'on appelle le chant diphonique ou le roumei, qui est une technique vocale bien spécifique qu'on trouve essentiellement en Sibérie, enfin Mongolie-Sibérie.
Et comment est-ce qu'ils arrivent? Parce que c'est, tout le monde a envie un peu d'imiter ça, mais c'est pas évident à faire avec sa propre voix.
Ben voilà, c'est une technique particulière qui est faite avec les harmoniques. Donc pour produire les harmoniques en même temps que le son de la voix, c'est le positionnement de la langue contre le palais qui va faire la dissociation du son dans ces harmoniques.
Vous êtes vous-même donc musicienne, j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est ça qui vous a ouvert cet intérêt pour ces chanteurs?
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une technique que j'avais jamais entendue et j'étais à Oulan-Bator, j'ai vraiment été très heureuse de la découvrir. Alors c'est aussi une technique qui est pratiquée par certains chamans en Mongolie qui auraient des pouvoirs guérisseurs. Ces sons-là auraient des effets positif. Et c'est dans la tradition, il est interdit aux femmes de chanter ces chants diphoniques parce que ça les rendrait stériles.
Pas dit donc. Alors, petite définition, parce que moi j'ai lu le livre Les Esprits de la Steppe où vous parlez notamment d'Enkituya, je ne sais pas si, comment est-ce qu'on prononce.
C'est parfait.
Enkituya, oui. Chaman du peuple Tsatan, mm-hmm. au nord de la Mongolie où vous vous êtes rendu. Chaman, c'est quoi exactement pour ceux qui se posent la question? C'est votre définition d'un ou d'une chaman?
Pour faire très simple, le chaman est le lien, l'intermédiaire entre le monde des humains et le monde des esprits. Alors, que sont le monde des esprits dans la tradition chamanique mongole? Ce sont des entités qui sont responsables de l'harmonie dans le monde et en nous aussi, évidemment. Donc, lorsque l'humain ou n'importe quoi dérange cette harmonie, ça énerve les esprits. Et pour vous faire comprendre que vous avez dérangé cette harmonie, ils vous envoient des problèmes.
Parce qu'ils sont coléreux à ce moment-là.
Exactement, ils sont très coléreux. Alors, lorsque vous avez beaucoup, beaucoup de problèmes, parce que dans la steppe, vous imaginez qu'on a facilement des problèmes, hein, c'est une condition de vie dure. Donc quand on a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on a perdu tout le troupeau, ou qu'on a perdu trois membres de la famille, ou, enfin bon, à ce moment-là, on va voir le chaman parce qu'on sait qu'on a fait une bêtise, qu'on a énervé un esprit, et le chaman va faire une cérémonie. Donc là-bas, il joue du tambour pour entrer en transe. Il fait une cérémonie et il demande aux esprits, grâce à la transe, il est censé demander aux esprits quelle est la bêtise que vous avez faite pour les énerver.
Parce qu'on s'en doute pas, on sait pas d'avance.
Et non, parce que souvent on peut ne pas avoir respecté un rituel ou on peut. En général, ça tourne beaucoup autour du respect. Hein. Si on n'a pas respecté la nourriture, si on n'a pas respecté tout ça, si on n'a pas respecté son intuition aussi, c'est quelque chose de très important pour eux parce que pour eux c'est le seul moyen, l'intuition, quand on n'est pas chaman, de pouvoir avoir les messages des esprits.
Alors vous racontez tout ça, vous y croyez vous-même ou c'est vous êtes devenu une adepte de tout ça ou est-ce que c'est quelque chose que vous observez en disant il croit ça et vous jugez comme vous voudriez.
Alors, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en faisant cet enregistrement pour la BBC, chez ce chaman au nord de la Mongolie qui s'appelle Balchir, le chaman a joué du tambour. Lui est entré en transe, les gens autour ne sont pas entrés en transe, les Mongols qui étaient là. Mais moi, oui, je suis entrée en transe. C'est-à-dire que le son du tambour a commencé à me faire bouger les mains, les jambes. Enfin, je me suis mise à sauter, à pousser des hurlements de loup. Mais je me rendais compte de ce qui se passait.
Ça devait vous étonner.
Et je ne pouvais plus le contrôler.
Ah oui ?
Voilà. C'était terrible. Et quand je suis sortie, quand le tambour s'est arrêté, quand je suis sortie de cet état, le chaman m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais chaman ?» Enfin, il a dit à Nara qui m'a traduit.
C'est-à-dire que les chamans qui rentrent en transe, c'est ça ?
Dans leur tradition, pour eux, il n'y a que les chamans qui ont ce don, qui entrent en transe au son de ce tambour spécifique.
Alors, ce qui est intéressant, vous le racontez dans votre livre, c'est que vous avez étudié aussi les transformations d'esprit par rapport à ça. Mmh. S'il y a vraiment un phénomène neurologique qui se passe dans nos cerveaux, quand on rentre en transe, c'est quoi ce phénomène ?
Donc j'ai vécu la transe sans le vouloir à ce moment-là. Donc quand j'étais arrivée avec mon matériel, je croyais en rien du tout. J'étais
le
micro, le mini-disque, oui, voilà. Oui. Donc quand j'ai vécu cette expérience, je me suis dit c'est quand même bizarre que le son d'un tambour puisse me faire cet effet. Donc je me suis dit, si le son me fait cet effet, c'est qu'il agit sur mon cerveau et qu'en modifiant le comportement de mon cerveau, il me permet d'accéder à autre chose que je n'ai pas l'habitude de vivre. C'est-à-dire que j'avais plus de force que dans un état normal, j'avais des visions et j'avais l'impression d'être un loup.
Un loup ?
Et oui, un loup.
C'est-à-dire vous avez
un loup. Ça veut dire que j'avais des pattes à la place des mains et j'avais vraiment une truffe à la place du nez. C'était assez,
vous pas
assez bizarre.
Vous n'avez pas pris une substance ou que vous fumez quelque chose ?
Promis juré, je n'ai rien pris du tout. Et les chamans là-bas ne pratiquent qu'au son du tambour cette transformation. Voilà. Alors j'ai cherché à comprendre. Après, il m'a dit bah, tu vas rester 3 ans avec nous. Là, on va te former puisque tu as le don. On doit te former. C'est notre...
Il y a beaucoup de chamans. Quel pourcentage ?
Il y a une trentaine de chamans sur 3 millions d'habitants, en gros. Voilà. Donc ça fait, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il a fallu que ça me tombe dessus.
C'est pas de chance, voilà. Quand même. Alors, dans la vie de tous les jours, ça implique quoi ? Parce que les 2/3 de l'année, je lis que vous vivez à Pigalle, vous roulez en smart et que vous lisez Elle. C'est ce qu'on lit dans un article sur vous. Donc, les 2/3 du temps, vous êtes quelqu'un de parfaitement normal.
C'est
le
ça,
chamanisme, en fait, il y a une partie dans votre livre, vous pouvez peut-être... Enfin, lisez-le, parce que...
Non,
vous ne voulez pas, mais c'est, non, mais c'est intéressant de savoir, de se faire une petite idée. Si je vous les invite, lisez
quelque
chose.
Vous m'avez sélectionné quelque chose.
Oui, voilà, vous pouvez lire ça.
Qu'est-ce
comme
que
ça,
vous m'avez... C'est pas moi qui ai choisi. Hein.
Non, absolument, alors, mais c'est intéressant.
Alors, Inketuya m'avait...
Alors, Inketuya, un petit mot sur qui c'est la chamane.
Alors, ce Balchir me dit que je suis chamane. Il me dit, on va te garder 3 ans avec nous. J'ai dit, non, c'est pas question. Mais il m'a dit, bon, il faut que tu deviennes chamane. Sinon, les esprits vont s'énerver, toujours pour les mêmes raisons. Alors, je lui ai demandé s'il était possible d'y aller plusieurs fois, en restant 2-3 mois à chaque fois, et voilà. Donc j'y suis allée 8 ans, comme ça, plusieurs fois par an.
Vous les avez apaisés, alors, des esprits.
J'espère. J'espère. Et donc, lui étant le chaman découvreur du don, il ne pouvait pas être l'initiateur. Donc c'est une femme chamane qui est de l'ethnie des Satanes, qui sont eux des éleveurs de rennes et qui vivent dans des tipis. Voilà. Et c'est elle qui a été chargée de me transmettre cette connaissance. Alors, elle s'appelle Inktuya, qui veut dire rayon bienfaiteur. Alors, je lis alors.
Absolument.
Donc, il est écrit dans le livre Paris, novembre 2003. Inktuya m'avait averti que des pouvoirs pouvaient se développer à force de pratiquer. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression qu'un voile se déchire peu à peu dans mon rapport à l'environnement, aux autres, à mon corps. Comme si j'en percevais davantage d'informations. Tour de mon imagination ou réalité ? Suis-je définitivement folle ou plus performante ? Je ne sais pas. Lors de la dernière transe, par exemple, j'ai vu un Indien et j'ai été persuadée qu'il s'agissait de Geronimo, le chef Apache. Ce nom revenait sans cesse, à tel point qu'en sortant de la transe, je me suis dit que je devais en comprendre la signification. Laquelle ? Et pourquoi ? Réponse d'Inketuya. Le loup t'a parlé, je t'avais dit que tu finirais par entendre ses messages. Là, j'ai pensé qu'en Mongolie, les fous étaient effectivement en liberté et qu'on les appelait chamans. J'ai quand même commencé une enquête pour savoir si Geronimo avait des descendants. Et j'ai trouvé Arline Geronimo, son arrière-petit-fils. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. J'avais besoin de savoir, d'avoir des réponses plus satisfaisantes que « les esprits t'enseigneront », ce que me disait toujours Inketuya chaque fois que je lui posais une question. Tellement difficile de devoir évoluer dans un jeu dont il faut deviner les règles. Mon propre jeu... Je suis devenue rien, ma plus belle expérience depuis le début de cette aventure. Il faut que je continue ?
Non, mais ça nous donne une petite idée de comment vous allez transférer ça dans votre vie tous les jours.
Alors, elle me disait,
Paris.
Elle me disait, ces fameux esprits, ils vont te donner des informations, ils vont te donner accès à d'autres, à une autre, pour eux, à une autre réalité que je ne voyais pas dans un état normal. Et c'est vrai, j'avais ces visions, plus de force, je ressentais pratiquement pas la douleur. Alors, j'ai contacté des scientifiques. Je leur ai dit, voilà, je vous donne mon cerveau, enfin, ou plutôt, je vous le prête. Faites des EEG dessus. Je voudrais savoir vraiment si c'est parce que la transe modifie le comportement du cerveau que tout d'un coup, j'ai accès à ces informations.
Vous avez été bien accueilli ou vous avez un peu accueilli comme...
Non, on m'a un peu donné la carte de psychiatre.
Non, mais ce n'est pas évident pour des... C'est quoi, des chercheurs, vous êtes allé
voir ?
Oui,
des chercheurs. Bah, d'abord, mon médecin. Qu'est-ce qu'on fait en général ? On parle à son médecin qui m'a dit, écoute...
Votre généraliste.
Ouais.
Et il vous
et
a
puis,
donné des.
Bah, il m'a dit chercheurs. Qu'il avait un. Non, il m'a dit qu'il avait un copain psychiatre qui était très 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 sympa et que je devrais bien aller le voir si j'avais encore ce genre d'expérience. Et bon, c'était pas très grave, mais j'ai continué. J'ai rencontré un autre chercheur qui s'appelle Pierre Etévenon, qui lui a été directeur de recherche de l'INSERM et qui m'a mis en contact avec des chercheurs au Canada parce qu'en France c'est encore un peu tabou, mais c'est en train de s'ouvrir justement grâce à ces recherches et ils ont enregistrer mon cerveau en posant des électrodes sur la tête, mais pour ça j'ai dû m'entraîner à provoquer la transe par la seule volonté, ce qui intéressait d'autant plus les scientifiques qu'on allait démontrer en même temps que ce n'était que la technique, que la transe elle-même n'était qu'une capacité du cerveau.
Okay, it goes like this. It's a social song. This is a social song that they dance, you know, in the evening or you know close to midnight. Uh-huh. It goes like this. This is an Apache social song.
Donc c'est le seul enregistrement que vous avez fait encore vous-même de Jerónimo, qui est un chaman mexicain.
Alors Arlene Jerónimo, c'est l'arrière-petit-fils du chef Apache, Jerónimo. Et donc ce rêve dont je parle dans l'extrait du livre a fait que je suis finalement entrée en contact avec Arlene Jerónimo et je lui dis voilà pourquoi j'ai fait cette... je ne l'ai pas dit tout de suite, hein, mais... Et il m'a dit, mais les Apaches sont les descendants des Mongols ? Ce que j'ignorais, bien sûr. Et il me dit, nous, on a la tache bleue.
La
tache bleue, c'est une tache de naissance qui se trouve au-dessus des reins qu'ont les bébés mongols et dont Arlene m'a dit que les bébés Apaches avaient aussi cette marque. Voilà. Alors il me dit, bah, pour nous, c'est évident dans notre tradition. Alors si tu as fait ce rêve de Jerónimo, ça veut dire que moi, j'ai toujours rêvé que nous, les Apaches, retrouvions ces racines mongoles qu'on a perdues. Et tu arrives, c'est logique.
Qu'est-ce voilà. que cela veut dire dans votre vie quotidienne, le fait d'être chaman, d'avoir cette capacité d'entrer en transe? Il y a des applications utiles, je veux dire, vous pouvez guérir des gens. Quel est votre quotidien? Quelle est l'utilité?
Ben, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors pour l'instant, c'est pour ça qu'on a fait ces recherches en neurosciences. Donc on a montré que cette transe chamanique modifiée, effectivement, en faisant des électroencéphalogrammes de mon cerveau, que la transe modifiait le comportement du cerveau, que dans ces états-là, c'est surtout les zones perceptives, c'est-à-dire l'intelligence d'ordre intuitif, qui était pour une fois plus active que l'intelligence spéculative, c'est-à-dire le mental et l'intellect. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a accès à ces informations qui sont différentes. Donc ces informations qui m'ont permis justement d'entrer en contact, enfin, a priori, de voir Arlene, de voir Jerónimo pendant une transe et d'arriver à ce que Arlene Jerónimo me dise, mais moi je t'attendais. En fait, moi je pense que c'est quelque chose qui était dans l'ordre du monde et que tu as perçu cette information grâce à la transe. Pour lui, c'est normal tout ça. Et pour toutes les populations qui pratiquent les techniques chamaniques, il est normal dans ces états-là d'avoir accès à une réalité augmentée.
Quelles sont ces populations? C'est qui à travers le monde?
C'est dans toutes les populations en Amazonie, en Afrique, beaucoup. C'est ce qui reste. Dans nos sociétés, c'était la même chose. Mais nous, ça remonte au néolithique, les pratiques chamaniques.
Ce qui est très sympathique dans votre livre, c'est que vous racontez un peu vos aventures. Ce sont des paysages extraordinaires aussi, Corinne Sombra. Je rappelle que ça s'appelle Les Esprits de la Steppe, chez Albin Michel, avec les derniers chamans de Mongolie. Racontez-nous un tout petit peu des paysages. Faites-nous rêver, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à ne pas connaître la Mongolie.
Oui. Alors la steppe, c'est des plaines de vert, de vert ou de jaune, je vous ai dit tout à l'heure, à perte de vue. C'est très beau, c'est très doux, c'est très vallonné. Et le nord de la Mongolie, là où vit Inktuya, c'est autour d'un lac qui s'appelle le lac Hovskul, qui est la sœur géologique du lac Baïkal. Voilà, c'est juste en dessous, c'est à la frontière de la Sibérie. Et là, ça ressemble un peu à la Suisse. Il y a beaucoup de mélèzes, de sapins, beaucoup d'arbres comme ça, qui sont en train de disparaître à cause de l'activité touristique qui se développe.
Alors, aussi, vous racontez beaucoup l'influence du régime sur place et le fait qu'on essaie d'enlever le style de vie naturel.
Alors, dans les esprits de la steppe, justement, je raconte l'histoire d'Inkutuya des années 30 à des années 50 à aujourd'hui. Au moment où la Mongolie était sous gouvernement communiste, elle a été le deuxième pays communiste au monde et où toutes les techniques traditionnelles ont été interdites. Donc le chamanisme a été interdit, la pratique du bouddhisme a été interdite, parce qu'on disait que ces traditions étaient inaptes à la modernité. Donc il fallait les effacer. Alors Inkutuya a dû aller à l'école, ça c'était bien, parce que tous les enfants ont été scolarisés. Donc elle est allée à l'école, et je raconte son parcours depuis toute petite, déjà dans la steppe, comment elle a découvert qu'elle avait le don chamanique, parce qu'elle était capable de voir, avant qu'il n'arrive, elle disait à ses parents, « Tiens, mon oncle va arriver demain ». Alors, il n'y avait pas de téléphone, évidemment, à l'époque. Il n'y avait pas de moyen de communication, autre que ces visions qu'elle avait, tout d'un coup.
Donc, une sorte de prévoyance.
Exactement. Elle a vu, quand elle était à l'école, elle a vu sa meilleure amie. Elle a fait un rêve où elle la voyait morte. Elle la voyait glisser sur une plaque de glace. Et elle a espéré que ce soit un cauchemar pendant longtemps. Et ça s'est vraiment réalisé.
Ce n'est pas toujours évident d'avoir ce genre de don que vous décrivez. Et elle guérit les gens. Parce que moi, je pense toujours chaman, c'est quelqu'un qui guérit.
Alors, il y a une subtilité quand même. Elle va guérir, en Mongolie en tout cas, le chaman n'est pas forcément guérisseur. Le guérisseur n'est pas forcément chaman, et il y a des chamans qui sont aussi guérisseurs. C'est-à-dire qu'on fait une distinction entre le guérisseur vraiment d'une maladie physique, d'un problème physiologique, et la guérison de l'âme. Donc le chaman traditionnel, tel que je vous l'ai raconté tout à l'heure, quand il fait une transe, il joue du tambour, il va interroger les esprits pour leur demander quelle est la bêtise que vous avez pu faire pour les énerver. Ça, c'est un rétablissement de l'harmonie et du lien entre vous qui avez fait une bêtise et l'esprit. Donc, dans ce sens, le chaman va réparer une harmonie, mais il n'est pas guérisseur tel qu'on l'entend, nous, en Occident.
Et vous traitez des gens, hein? Je veux dire, si moi, je viens vous voir en disant, est-ce que vous pouvez savoir si j'ai énervé des entités
C'est ce que je suis censée faire en Mongolie, mais je ne le fais pas en France. Voilà, parce que en Mongolie, on a toujours la notion de c'est moi qui ai fait la bêtise. Je me remets en cause moi-même. C'est-à-dire que je change mon comportement pour plus énerver les esprits. En Occident, on a un peu trop l'habitude des antibiotiques. Donc, si vous allez voir un chaman, vous vous dites, il va me soigner et surtout, je remets pas en question ce que je suis. Voilà. Donc, de toute façon, en France, je pratique pas du tout. Non, je fais des recherches en neurosciences surtout. Voilà. Parce que justement, on essaie de savoir si les perceptions qu'on a dans cet état-là, si les visions que j'ai dans cet état-là, elles permettent d'apporter une réponse à une pathologie ou pas. Ça, on n'en sait rien.
Et alors ?
Ben alors, on est en train d'étudier ça. Voilà. Donc après ces recherches avec les EEG, où on a montré que la transe modifie le comportement du cerveau, on essaie maintenant de savoir à quoi ça sert. Donc ce sont les premières, c'est vraiment le premier protocole au monde sur cette forme de transe. Et c'est vrai qu'en proposant une étude sérieuse sur le sujet, les scientifiques s'ouvrent petit à petit à cette façon de voir la réalité.
Donc toutes les références, vous pouvez les trouver grâce à Maud Nourry sur le site, parce que quand on fait des émissions de ce genre, il y a toujours beaucoup de gens qui écrivent en disant « je suis très intéressé par ça ». Donc francemusique.fr, sous la rubrique « Voyage en moi majeur ». voyage en moi majeur ce soir avec notre commandante de bord Corinne Sombrin, les esprits de la steppe. Vous nous avez parlé de la Mongolie. Je voulais juste que vous disiez un dernier mot sur la Mongolie, parce que vous avez répondu à notre questionnaire. La ville qui vous a le plus étonné dans le monde, c'est Mölln.
Bien prononcé.
Je ne sais pas, mais toujours quand je vois ces O avec des deux points, c'est, et pourquoi cette ville vous a étonné? Où est-elle d'abord? Parce que Mölln,
elle est
pas.
À 700 km à l'ouest de Oulan-Bator.
Ouais.
Et c'est la ville, la dernière ville avant d'aller près du lac Rufsgul, voilà, qui est encore à 200 km. Elle me plaît parce que c'est une ville construite, il y a des palissades avec des yourtes à l'intérieur ou des petites maisons en bois à l'intérieur. Et il n'y a que des pistes sur le. Donc j'ai l'impression d'être peut-être dans un western, mais de l'est.
Alors dans votre livre, on est vraiment dans le. Vous faites des phrases extrêmement courtes, ça se lit très, très rapidement, c'est très rythmé. Les yourtes, par exemple, c'est fascinant de vivre dans ces constructions.
C'est très agréable. Alors ce sont des habitations circulaires faites de feutres. Et c'est très très agréable. Il y a un poêle au milieu et puis un trou en haut pour laisser passer le tuyau de poêle. Donc c'est très agréable de vivre dans cet environnement circulaire. Mais malheureusement, j'ai plus vécu dans un tipi que dans une yourte. Les Mongols disent guerre, hein, parce que yourte, c'est le nom russe. Donc aujourd'hui, ils préfèrent les mots mongols que les mongols. Donc si vous dites guerre en allant là-bas, ils seront contents.
Qu'est-ce qu'on mange sur place?
Ça, c'est... Alors, on mange beaucoup de pâtes, dont je parlais tout à l'heure, de bouillie avec de la graisse de chèvre ou de mouton, ou, enfin, suivant ce qu'il y a. Donc, c'est pas très bio.
Vous ne faites pas une image très, très appétissante.
Énormément de produits laitiers et pas du tout de légumes, parce que pour eux, l'herbe, vous ne ferez jamais manger de la salade à un mongol, de la steppe en tout cas, parce qu'ils vont dire que c'est de la nourriture pour les animaux. Ça, voilà. Donc, pas de légumes, beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Where?
Pour moi, c'est une première. Je ne connaissais pas cette chanteuse, Marie Boine, oui. D'un disque qui s'appelle, c'est très beau, le titre du disque, c'est Ijagieda, c'est-à-dire Dans la main de la nuit. Ce morceau-là s'appelait Voi Voi Mou, ça parle de plein d'oiseaux en fait. Oui. Et c'est dans la langue Sami, c'est celle qui exactement. Représente...
Marie Boine est vraiment la chanteuse la plus connue qui a mis vraiment sur la scène mondiale le chant traditionnel Sami qui s'appelle Yoik. Et ce Yoik était un chant chamanique au départ. Et donc chaque chaman chantait ses chansons et il les chantait pour quelqu'un. Et donc la chanson appartenait à la personne à qui le chaman chantait cette chanson. Et lorsqu'il a été question de droit d'auteur... Mais la question s'est posée, à qui doit-on donner les droits d'auteur ? À celui à qui je chante, pour qui est la chanson, donc qui lui appartient, ou à celui qui la compose ? Donc ça a posé un questionnement, je trouvais ça amusant, parce qu'en général, on ne se pose pas la question, c'est celui qui invente la musique qui en est l'auteur. Mais là, non.
Ce que je trouvais étonnant chez vous, Corinne Sombra, c'est que si je vous croisais dans le métro, je vous prendrais pour quelqu'un qui habite à Paris, etc. C'est tout à fait le look d'une Parisienne normale. Et pourtant, quand vous répondez au questionnaire, quand vous écrivez vos livres, le voyage professionnel hors France que vous avez préféré, la traversée de l'Alaska, par exemple... Mm-hmm. Le repas le plus étonnant au cours de vos voyages, des gongos, des larves que vous avez mangées en Amazonie. On a du mal à cadrer ces réponses-là à la personne qui est en face de moi.
Ben, c'est l'histoire des chamans, c'est-à-dire que grâce à ces techniques, ils ont une perception augmentée de la réalité. Donc peut-être que ça...
ça sert, mais de là à traverser
l'Alaska... C'est vrai aussi pour le mode de vie.
Écoutez, je vous pose des questions. Alors, vous avez traversé l'Alaska de quelle façon ?
En voiture. En voiture.
Mais pourquoi et pour chercher ?
Voilà, parce que je suis partie toujours à la recherche de la migration de ces peuples de Mongolie. Et qui ont traversé le détroit de Bering. Donc, je suis allée rencontrer les Lapons et ces Samis qui sont des éleveurs de rennes aussi, parce que j'étais avec des éleveurs de rennes en Mongolie. Et ça, c'était en essayant de reconstruire le puzzle de l'histoire que m'avait raconté Arline Geronimo, en me disant que les Apaches étaient les descendants des Mongols. Donc, je me suis dit, mais comment ils ont fait ? Donc, ils sont partis de Mongolie, ils ont traversé le détroit de Bering en passant par... mais ça s'est fait sur des siècles, hein, bien sûr, par la Laponie. Et puis après, ils ont traversé le détroit de Bering et ils sont arrivés en Alaska. Et là, les descendants de ces peuples de Mongolie seraient les Indiens Athabascans, que je suis allée rencontrer aussi pour savoir qu'est-ce qui leur restait de ces traditions.
Vous leur parlez en quelle langue ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
En anglais. En Alaska, c'est facile. Je leur parle en anglais. Ces Indiens Athabascans, je leur ai posé des questions. Je leur raconte mon histoire. Et puis, en général, ils sont très accueillants. Pour une fois qu'on s'intéresse à eux, ils sont contents. Alors... je suis allée les rencontrer. Et ce qui resterait de la tradition mongole, c'est ce qu'ils appellent la roue mongole, qui est une roue de pêche. C'est tout ce qui resterait. Eux ont perdu les traditions chamaniques.
C'est quoi la roue de pêche ?
Alors, c'est une roue qui fait 3 mètres de haut, dans laquelle il y a des paniers qu'on met dans l'eau et qui tournent avec le courant de l'eau et qui ramassent les saumons. Voilà. Et alors, ce sont les seuls, évidemment, en Alaska, à avoir le droit d'utiliser cette technique de pêche, parce que ce sont des natives. Voilà.
Et la Laponie, c'est quel genre de paysage ?
Alors la Laponie, j'y suis allée en hiver au mois de janvier sur la mer de Barents. Et c'est des paysages, c'est tout blanc, ce sont des collines, c'était merveilleux. C'est merveilleux, avec des couchers de soleil, avec des couchers. Il dure deux heures, hein, là. Il y a 2 heures de soleil. Donc l'arrivée de la nuit avec des couleurs violettes sur l'eau et tout, c'est magnifique.
Le moyen de transport que vous préférez, vous avez répondu le cheval ?
Le cheval en Mongolie, oui, et le cheval en général, parce que c'est un moyen que je trouve pas très fatigant, parce que je suis une flémasse. C'est un moyen qui est assez lent pour découvrir un paysage, on le découvre de haut, donc j'ai parcouru beaucoup de régions, donc en Mongolie, en France.
Mais comment est-ce qu'on négocie, par exemple, un cheval pour qu'on puisse partir comme ça quand on débarque comme vous une Française, vous partez avec qui ?
Je pars avec des gens, des locaux en général. Hein. Voilà. En Mongolie, choses... c'était facile. Je les ai accompagnés dans la transhumance. Ils emmènent les rennes vraiment à la frontière de la Sibérie pour manger un lichen particulier dont ils ont besoin. Et donc je raconte tout ça dans le livre avec les traditions chamaniques. Et donc j'ai fait la transhumance avec eux qui dure un mois à travers les montagnes jusqu'à la frontière de la Sibérie.
Et vous racontez ça, tout ça sur un ton comme s'il n'y avait pas de danger, comme si une femme pouvait partir comme ça. c'est dangereux quand même de faire tout ça, non?
Non, c'est pas
dangereux. Il n'y a pas de moment où vous avez eu peur?
Ben, c'est moins dangereux qu'à Paris, je trouve, avec les voitures et les trucs comme ça. Et les... Non, je trouve ça moins dangereux qu'à Paris.
C'est impressionnant ce que vous avez fait quand même.
Non, je vous jure, c'est pas du tout impressionnant. Non, c'est juste passionnant. C'est juste une façon de rencontrer d'autres populations, d'autres problématiques aussi et d'autres...
Et pourquoi vous, pourquoi tout d'un coup vous êtes parti
Mais peut-être parce que mes parents, j'avais le gène du, ils ont vécu en Afrique, ils étaient donc ils étaient un peu aventuriers à l'époque. Ils sont partis dans les années 50, quoi. Donc c'était quand même.
Vous avez la gène du restlessness, comment dire, du sans repos, de pas être.
Du sans repos, non, hein, pas vraiment. Mais
vous êtes une déracinée, vous?
Je ne me sens pas déracinée, je me sens bien partout.
Vous avez des racines où? En Afrique?
J'ai des racines en Afrique, j'ai des racines en France, j'ai des racines en Angleterre, en Mongolie.
En Angleterre aussi?
Enfin, pas des racines telles qu'on l'entend, mais là où j'ai vécu. Pour moi, les racines, c'est partout où j'ai vécu, c'est tout. Mais c'est partout, en fait, parce que j'ai l'impression d'être un habitant du monde. Et que partout où je peux avoir un sac à dos, un cahier et un crayon, je me sens bien, je me sens chez moi.
Et votre rapport avec l'Angleterre, c'est pourquoi vous avez travaillé pour la BBC par
exemple, j'ai vécu un an et demi à Londres.
Pour RFI, par exemple.
Parce que, en rentrant, parce que ça s'est trouvé comme ça. C'était le décès de la personne avec qui je vivais qui fait que j'ai quitté la France et j'ai eu envie de changer d'environnement. Voilà.
Et vous avez débarqué à Londres, donc.
J'ai débarqué à Londres chez une amie qui m'a hébergée pendant quelques temps et puis qui m'a trouvé un travail de pianiste pour le théâtre. Voilà. Et je faisais des performances de 24 heures. Vous savez, comme dans les cinémas muets autrefois, où le pianiste était sur scène accompagné et faisait l'ambiance musicale, ben moi je faisais l'ambiance musicale d'une pièce de théâtre qui durait 24 heures. Voilà, donc sur scène, avec plein d'instruments, pas forcément un piano, mais il y avait plein de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps à dormir aussi.
Alors, vous êtes pianiste, quel est le rapport entre le chamanisme et le fait de jouer du piano? Est-ce que vous pouvez rentrer dans un état d'esprit différent? Ou est-ce que vous avez fait des études neurologiques sur l'état d'esprit quand vous jouez du piano?
Ça m'est arrivé, j'accompagnais un élève pour son prix de conservatoire, un violoncelliste, on jouait une sonate de Beethoven. Et à un moment, j'ai eu l'impression de m'envoler dans la musique. Le problème, c'est que quand je suis revenue de cet état, j'ai vu mes doigts jouer, mais je savais plus du tout où j'en étais. Mes doigts avaient continué à jouer, et moi j'étais partie. Mais oui. Donc du coup, je me suis arrêtée. Et ils n'ont rien compris. Évidemment, ça se fait pas d'arrêter. Je me suis arrêtée, je me suis excusée, j'ai pas expliqué ce qui s'était passé, évidemment, et j'ai recommencé. Bon, il a eu son prix, hein, donc ça va. Aye te oye y te rolpa, clara cae canal jodaca, y patiga oye, ebe y chauca, y vaya y cabioca, en la mañana, la camaña, aye te oye, la catiga je canana, la camaña. Aye te oye, la catiga y te la. Ya nara urorpa ikanalo daka itera moga ika itera moga ika itera moga itera moga ika wa laka maya oje ikanala laka maya ayete oje. Aye te oye, ya nara urarigate, y te rolpa, he canahudaka, moca y careca, o pariman llave maquite, na mañana, la camaña.
Corinne Sombra, des explications, c'est qui?
Alors, c'est un chant d'une jeune femme de la population de la tribu des Surui, en Amazonie brésilienne. Voilà. Alors, j'ai été en contact avec eux grâce à un projet sur la reforestation. Et je suis en train d'écrire un livre avec Almir Surui, qui a imaginé le moyen de rentabiliser la forêt sans la détruire. Alors, il a eu le prix des droits de l'homme à Genève pour ça. Et voilà, c'est le sujet du...
Et ça consiste quoi, alors ?
Grâce au crédit carbone. Voilà, donc il a fait faire une évaluation. Il a dit, après tout, nous, on a un territoire qui fait à peu près 3 fois la ville de New York, de jungle. Il a fait faire une évaluation, s'est fait sponsoriser par Apple, par Google. On a le droit de dire des marques,
je crois. Vous l'avez dit,
c'est trop tard. Et donc, il a fait faire une évaluation de ce que produisait son territoire en compensation carbone. Et donc, il se débrouille, il s'est en train de se faire pour que des entreprises polluantes payent de l'argent, une compensation aux survies pour qu'ils entretiennent leurs forêts et qu'elles continuent de produire une compensation carbone.
Corinne Sombra, avec tout ce que vous avez vu, les gens que vous avez rencontrés, est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que vous avez vu Dieu dans vos voyages ? Vous avez parlé des esprits, ceux qui s'énervent facilement, mais est-ce que vous avez vu Dieu ?
Dieu tel que la religion l'entend, non, il n'a pas cette forme-là, mais en tout cas, la notion de lien, religion dans le sens de relier. La transe nous met dans un état qui fait qu'on est moins enfermé, on n'a plus la notion de jeu, on n'a plus la notion d'ego. Tout ça s'ouvre et on a l'impression vraiment d'être relié au tout. Donc il m'est arrivé d'avoir des expériences, on appelle ça l'extase dans les expériences mystiques. Il m'est arrivé, en dehors de la transe, après de vivre cet état-là. Et c'est vrai que quand on vit ces états, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, on dit divin, et qui fait qu'on n'est pas là pour rien. Alors après, Dieu, c'est une interprétation de ce phénomène. Donc chaque religion, après, a développé une interprétation de ce phénomène-là. Mais quand on vit ça, on se dit oui, il y a une part de divin en nous et partout.
Comment est-ce qu'on rentre en transe ?
Alors au départ, il y a beaucoup de populations ont développé cet accès à la transe qui est suivant les régions, qui est le tambour en Mongolie, qui peut être des psychotropes comme l'ayahuasca en Amazonie, les champignons, enfin tout ce genre de choses. Alors ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai montré qu'on pouvait l'induire uniquement par la volonté, par un entraînement qu'on essaie de mettre au point avec des chercheurs, justement.
Mais c'est quoi ? C'est des vocalises, de la respiration ?
Non, c'est le son du... Parce que le son du tambour, je sais, moi, en tant que musicienne, évidemment, je sais ce qui provoque, quelle est la partie du son du tambour qui provoque la transe. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour essayer d'en tirer la substantifique moelle.
Alors, dernier morceau, vous allez nous dire ce que c'est après. Sumak sumak tachari, shamori mongi tichain, to sumak tachari, rede sita wachari, watari mushumari, paipa cuerpo sitota, paipa alma sitota, paipa shungu shitoshi, jakeli bungachari, re, jakeli akili bungachari, re, warmi sitoshi, sumak sumak tachari, paipa ka, Alors, explication, elle a l'air de s'amuser pas mal, c'est qui ?
Elle s'amuse beaucoup, c'est une chamane d'Amazonie, du Pérou, où je suis allée aussi, qui est en train de nous chanter une chanson magique pour obliger un homme à tomber amoureux de vous. Voilà, donc vous auriez dû mieux l'écouter. J'espère que vous pourrez la réécouter.
Alors, c'est destiné à tous les gens ?
Ben oui, c'est une chanson qui est censée faire tomber tous les garçons dont vous avez envie.
Ben c'est fort sympathique, merci beaucoup. Donc, c'est adapté aussi au temps moderne.
Oui.
C'est parfait. Je m'en voudrais si je ne vous demande pas le goût des gongos, qui sont les larves que vous avez mangées en Amazonie. C'est quoi ?
C'est très, très bon, figurez-vous. J'ai vraiment fait la grimace.
C'est le repas le plus étonnant au cours de vos voyages.
Ouais. Donc, ce sont des larves, ça ressemble à des gros vers blancs. Et donc, eux l'utilisent parce que c'est vraiment plein de protéines. Et c'est très riche en graisse, en plus. Moi, ils le font cuire. Je n'ai pas mangé cru, je n'aurais pas pu. Donc, c'est un goût goût de noisette.
Et vous allez partir où prochainement,
c'est quoi? Là, je repars en Mongolie dans 3 semaines.
Pendant combien de temps?
2 mois.
Et qu'est-ce que vous allez y trouver?
Oulan-Bator déjà. Et puis après, je vais aller rencontrer mes amis. Voilà.
Corinne Sombrin, en tout cas, c'est une mission qui sort de l'ordinaire avec vous. Je rappelle, donc déjà, il y a le journal d'une apprentie chamane, mais là, les esprits de la steppe avec les derniers chamans de Mongolie aux éditions Albin Michel. Corinne Sombrin, merci de nous avoir fait écouter ces enregistrements uniques.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Florin, notre chaman habituel, avec son goût de réaliser l'émission. Maud Nouri, bien sûr, qui était notre assistante de production et à qui vous pouvez envoyer tous vos mots doux et tout ce que vous voulez sur francemusique.fr. Et notre technicien ce soir, Pascal Bénard. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout que vous allez revenir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Je l'ai descendu. Merci à vous, et je ne sais pas s'il est en état de transe ou s'il a des dons chamaniques, mais en tout cas, Laurent Valero nous attend, je pense, pour ces nuits noires de monde. Bonsoir.